20h42 minutes ce soir. Bonsoir, les sportifs est en mode sport électronique, en mode e-sports. C'est un phénomène qu'on peut pas ignorer. Il y a toutes sortes de métiers qui sont maintenant liés à ces compétitions de jeux vidéo-là. Et croyez-le ou non, eh ben, il y a aussi des commentateurs et des analystes, oui, des Danny Dubé et Martin McGuire qui font ça pour le plus grand plaisir des téléspectateurs, de ceux qui regardent ces compétitions sur le web. Aujourd'hui, si vous venez de vous joindre à nous, eh ben, on s'attarde à au e-sports, à ces tournois de jeux vidéo. C'est un spécial Bonsoir les sportifs sur le e-sports. Devant moi, celui qu'on appelle Étienne Gentleman Veilleux. Bonsoir.
Bonsoir Mathieu.
Parle-moi un peu de ton histoire d'abord et avant tout. Comment tu as été initié au e-sports? Ça, tu n'es pas le plus grand des gamers, sauf erreur. Hein?
Non, absolument. Parce que moi, mon background, on pourrait dire d'où je viens, c'est d'un milieu plus sportif traditionnel. Okay. Par contre, quand je me suis amené à Montréal pour les études universitaires, j'ai abandonné le sport pour me déplacer. Et là, j'ai découvert que mes soirées étaient vides. Et donc, j'ai commencé à plus m'intéresser aux jeux vidéo en général. Et là, j'ai découvert le monde de compétition qu'il y a derrière ça. Comme tu mentionnais plus tôt, tantôt, à quel point il y a une grosse compétition derrière ça. Et là, ça m'a vraiment intéressé. Le sportif en moi est venu me chercher. Il m'a dit, bon, ça ressemble, c'est beaucoup d'aspects que je retrouve dans les sports ici. Et là, c'est là que j'ai découvert ce monde-là. Et là, j'ai rencontré des gens qui, eux, étaient passionnés vraiment là, de jeux vidéo et des sports électroniques qui étaient
en train d'apparaître. Tout était en anglais, soit dit en passant, à ce moment-là.
Absolument, tout était en anglais. Les petits événements au Québec commençaient à apparaître où on avait des petits tournois, des tournois plus, beaucoup plus amateurs. Là. Et c'est là que, après à m'être diffusé en ligne, un ami qui est venu me contacter, mon ami Guillaume, il m'a dit « Là, j'ai besoin d'un analyste pour le tournoi. » Et là, j'ai dit « Mon Dieu, un analyste, OK, qu'est-ce qu'il faut? » Là, j'ai regardé des diffusions, j'ai compris à quel point le rôle de commentateur était important dans le divertissement.
Donc, mais il y a déjà du son, il y a déjà de la musique, il y a déjà des effets sonores quand on joue à un jeu vidéo. Est-ce qu'on avait besoin d'ajouter une couche
absolument,
d'analyse?
Absolument. C'est comme si lorsque les commentateurs faisaient la grève au hockey, ouais. C'était tellement étrange de regarder les matchs sans commentateurs. C'est la même chose dans les sports électroniques. Ça ajoute non seulement un divertissement, non seulement du descriptif, parce qu'on a vraiment un commentateur qui est plus à la description, vraiment comme dans les sports traditionnels, et un analyste, là où je jouais mon rôle, et on voyait en fait, mon analyse venait chercher un petit peu qu'est-ce qui venait de se passer. Pareil au hockey, par exemple, il y a un but qui vient d'être marqué, on va aller voir l'analyste, il va nous expliquer un petit peu comment le jeu s'est créé, les joueurs étaient placés où, pourquoi est-ce que ce jeu-là est exceptionnel ou les erreurs qu'un joueur a faites.
C'est sûr qu'un néophyte pense qu'on joue un peu naïvement à des jeux vidéo, mais il y a de grandes stratégies derrière les victoires et les défaites de certaines équipes ou certains joueurs.
C'est sûr, parce qu'il faut se dire, il faut se rappeler que là, on parle pas de jeux vidéo seulement au niveau amateur, on parle de jeux vidéo pratiqués au niveau compétitif, ce qui veut dire qu'il y a des joueurs qui vont vouloir se démarquer davantage et donc vont pratiquer jusqu'à ce qu'ils atteignent un niveau supérieur à la moyenne. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on voit qu'il y a des façons optimales de jouer un jeu. Pourquoi est-ce qu'au hockey, il y a 3 attaquants, 2 défenseurs? Il y a quelqu'un, à un moment donné, qui s'est rendu compte que c'était la façon la plus optimale de jouer au hockey et que c'était plus facile, par exemple, d'aller marquer des buts que d'avoir 4 défenseurs. Mais il y a une logique comme ça qui se retrouve dans un petit peu tout, et donc dans les sports
électroniques. Dans les jeux vidéo où il y a une stratégie d'équipe qui doit être déployée, c'est le même genre d'analyse, c'est pas différent. Donc, toi, tu t'exprimes bien, tu connaissais déjà les jeux vidéo, tu t'es pointé à ton premier tournoi, et c'est là que ton surnom Gentleman est arrivé.
C'est ça, parce que moi, lorsque j'ai remarqué justement le niveau vraiment professionnel, je voyais que les commentateurs étaient très, très, très classe. Il y avait toujours un veston, était bien habillé pour vraiment représenter à quel point ce n'était pas du niveau d'amateur. On veut projeter une production professionnelle. Donc, j'ai dit à mon collègue Guillaume, j'ai dit là, va t'acheter un veston si t'en as pas. On arrive en veston puis on fait ça super sharp, vraiment professionnel. On est arrivé là-bas, les gens étaient quand même surpris de voir ça parce que c'était vraiment les débuts des tournois. C'était en fait un tournoi au Musée de la Civilisation, profit d'Opération Enfant-Soleil.
Okay.
Donc, il y avait de l'argent qui était remis à la fondation et donc c'était pour une très belle cause. J'ai participé à ça et à partir de là, j'ai découvert vraiment à quel point c'était passionnant comme domaine et à quel point on était en retard comparément même aux États-Unis, mais surtout à l'Asie par exemple. Et donc, j'ai continué comme ça dans plusieurs événements au Québec et là, j'ai vu grandir le sport électronique à quel point aujourd'hui on a des apparitions comme par exemple Montréal Esports, comme des équipes qui commencent à se qualifier pour des tournois beaucoup plus professionnels aux États-Unis. Donc vraiment des choses intéressantes qui se passent au Québec et je pense que c'est très plaisant d'avoir une émission comme ce soir pour pouvoir en parler.
C'est vrai qu'on n'a pas l'occasion dans les médias traditionnels. Est-ce que tu as souvenir toi d'un moment précis où tu as dit OK, là il va se passer quelque chose parce que les médias embarquent?
Oui, je pense que un moment clé au Québec a été surtout lorsque le LAN ETS, qui est une organisation de l'ETS depuis presque 15 ans, qui donc, organise des tournois.
Le LANETS, ouais. Donc c'est l'École des technologies supérieures,
à Montréal,
qui organisait déjà des tournois de jeux vidéo, ont décidé à un moment donné de sortir.
Oui, c'est ça, exactement. On a décidé de sortir de l'ETS parce que c'était un club étudiant, en fait, qui organise ça, il faut le dire.
Ouais.
Et donc, le club étudiant, à un certain point, on a commencé avec quelques dizaines de joueurs aux alentours des années 2000. Mais là, dans les années 2015-2016, on a commencé à avoir plus de 1000 joueurs, plus de 2000 joueurs. Les billets se vendaient tout de suite. Donc là, on a se déplacé à la place Bonaventure, qui était vraiment un gros bâtiment à Montréal. Ouais. Et donc là, on s'est déplacé là et dans les mêmes années, on a eu le DreamHack, qui est le plus gros festival numérique au monde, qui s'est amené pour la première fois à Montréal. Et ça a vraiment été un gros pas. Et c'est là
C'est récent, là, ça fait 2 ans, ça.
Absolument. Donc là, c'est là que RDS a embarqué. Ils se sont dit, wow, OK, même en tant que diffuseur sportif, il y a quelque chose qui se passe ici. Là, on contactait diverses personnes et là, on a commencé à créer cette relation-là. Et donc là, c'est pour ça que je fais des chroniques à RDS là-dessus aussi. Et c'est fou de voir à quel point on accélère de plus en plus rapidement dans le domaine des sports électroniques au Québec. On se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens intéressés à ça.
Est-ce que, ici, je te pose la question, Étienne Veilleux, descripteur de e-sports, est-ce qu'on a des stars au Québec? Ou en fait, commençons avec des stars internationales. Ça existe. Il y en a qui peuvent pas en Asie se promener dans la rue.
Absolument. Là, on parle en Corée. En Corée, c'est l'équivalent de si c'était une vedette de la télévision ici, ou même beaucoup plus que ça. Parce que ici, les vedettes de la télé se permettent d'aller à l'épicerie, par exemple. Mais il y a des joueurs en Corée qui font les publicités. C'est eux qui font les publicités pour la pâte à dents. C'est eux qui font les publicités pour boutiques. Donc, ils peuvent pas sortir sans se faire littéralement courir après par des fans, autant des hommes que des femmes. Je le dis, là, c'est comme des athlètes sportifs traditionnels ici. Si Céline Dion arrivait au Provigo, là, c'est littéralement ça. Donc, nous ici, c'est beaucoup plus tranquille, on va se le dire. Par contre, on a des joueurs qui ont connu un très gros succès. Je pense notamment à celle que tout le monde connaît, Stéphanie Harvey, qui a été une pionnière dans ce domaine-là, qui vraiment a été championne du monde à multiples reprises. En fait, tout le monde en parle, vu de cela, des années.
Ouais.
Et donc, elle a vraiment pavé le chemin vers...
Elle était semi-professionnelle à l'époque, parce qu'elle combinait sa passion et son talent du e-sports avec un métier aussi de conceptrice de jeux vidéo. Hein.
Absolument. Donc, là, on voit que... La raison pourquoi elle était semi-pro aussi, c'est que le domaine n'était pas assez développé pour qu'elle puisse vivre de ça, seulement de ça. Et là, aujourd'hui, c'est encore difficile pour certains joueurs, certaines équipes. Par contre, il y a énormément de ligues qui ont des contrats avec les joueurs, vraiment, comme dans les sports traditionnels où on a un revenu, des avantages sociaux, des assurances, un après-carrière, des infrastructures. Donc ça, c'est l'autre gros morceau.
Il y a un mode de vie qui vient avec ça. Si on veut faire ça sérieusement, ça me fait penser un peu aux X Games à l'époque, les sports extrêmes. Souvent, on pensait que le style de vie des snowboarders était un peu débridé, puis ils aimaient ça faire le party. Il n'y avait pas une bonne réputation. Mais force est d'admettre que c'est de puissants athlètes et on ne se rend pas à des niveaux supérieurs en faisant le party 3-4 fois par semaine.
Non, pas du tout. Et il faut se dire justement encore
une fois... Ça prend une hygiène de vie.
Exact. C'est là que le mot-clé est là. L'hygiène de vie, c'est vraiment des mots-clés ici parce que je pense sincèrement que ce qu'il faut comprendre, c'est que la raison pourquoi on est au niveau professionnel, c'est que les joueurs se dédient à ça en fond de carrière. Mais ils ne font pas juste s'amuser là-dedans. C'est pas de se lever puis de juste jouer pour le plaisir. Les joueurs ont une hygiène de vie. Ils se lèvent le matin, doivent aller au gym pour s'activer physiquement, reviennent, vont se pratiquer en pratiquant contre d'autres équipes ou entre eux autres. Ils vont faire du vidéo comme au football, on va faire pour regarder l'ennemi ou voir nos matchs, pour voir nos erreurs. On va développer des nouvelles stratégies. On va manger de façon saine parce qu'on sait que c'est maintenant prouvé que si physiquement on n'est pas en forme, on ne le fera pas mentalement. Donc, comme tu dis, l'hygiène de vie est définitivement...
On va définitivement reparler de cet aspect-là parce que je pense qu'il est méconnu. Étienne Veilleux est descripteur de tournois de jeux vidéo, de tournois de e-sports. Il est avec nous pour cette émission spéciale de Bonsoir les sportifs qui va traiter de ça jusqu'à minuit, de tournois de jeux vidéo. Si vous voulez prendre part à la conversation, à l'émission, 514-790-9850, 1-866-790-9850. Sur les médias sociaux, n'hésitez pas sur Twitter ou encore sur Facebook à utiliser le mot-clic Diaz BLS. Et Étienne, tu es en direct sur Facebook en ce moment.
Absolument. Oui.
Bon, au téléphone, on a, sauf erreur, William qui est au bout du fil, qui veut participer lui aussi. Bonsoir, William.
Bonsoir, comment allez-vous?
Très bien, toi-même.
Bien.
Parle-moi, est-ce que tu es amateur toi-même de jeux vidéo?
Oui, ça fait au-dessus de 20 ans. C'est l'histoire de ma vie, les jeux vidéo. J'aimais bien la portion compétitive dont vous avez parlé, Dota 2.
Ah oui? Donc toi, tu as déjà joué à Dota 2, qui n'est pas un jeu qui date d'hier, soit dit en passant?
Non, c'est en fait un histoire que Blizzard aurait dû prendre sur leurs ailes. Mais bon, ils n'ont pas embarqué dans le projet, mais maintenant, ils ont Heroes of the Storm. On a aussi League of Legends, qui sont des plateformes très compétitives.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu joues encore beaucoup?
Oui, à chaque jour. Je joue beaucoup à Heroes of the Storm ces temps-ci. J'ai joué beaucoup aussi à League of Legends. Un peu moins à Dota 2, mais c'est de très bons jeux.
Est-ce que c'est un sport?
Ah, c'est absolument un sport. Il faut garder la nation très à jour. Les personnages changent à toutes les 3-4 mois. Il faut toujours vérifier les patchs. Il faut même connaître ses adversaires dans les milieux compétitifs parce que certains adversaires sont extrêmement doués avec certains personnages, donc il faut absolument les bannir.
Et William, t'es d'accord avec moi pour le fait qu'effectivement, il y a des joueurs qui vont jouer de façon plus, on dit casual, mais de plus façon récréative, mais il y a définitivement un côté où les joueurs vont se dévouer à ça en fond de carrière et c'est là qu'on rentre dans le domaine vraiment où est-ce qu'on peut traiter ça comme un sport.
Ah, absolument. Écoutez, quand on parle d'une équipe, c'est une vraie équipe. Là. Ces joueurs-là, ils ont des psychologues, ils ont des entraîneurs, des analystes qui font seulement regarder la stratégie et revoir leur stratégie. Puis ils essaient constamment de s'améliorer. C'est ça qui est impressionnant dans tout ça.
Ben William, on va parler de e-sports jusqu'à minuit ce soir. Passe le mot. Et puis, je te souhaite une bonne fin de soirée. Et puis, j'espère que tu seras à l'écoute jusqu'à la toute fin.
Excellent, c'est sûr, je vous écoute.
C'est bon, merci. La scène au Québec, tu l'as dit tout à l'heure, hein, c'est encore un peu difficile de vivre justement de e-sports, mais comment tu la vois se développer dans les 3-4 prochaines années là?
Je dirais qu'il y a vraiment une barrière à passer aussi au niveau de la langue, au sens où on a beaucoup de... Ils sont évidemment en français, le domaine très large est en anglais. Par contre, je pense qu'en se créant des infrastructures d'ici, comme par exemple Montréal e-sports, qu'on va... avec qui on va parler un petit peu plus tard, c'est des bonnes bases pour se créer des joueurs québécois qui vont grandir avec un environnement professionnel, qui vont les adapter vraiment au niveau plus élevé que ceux qui sont seuls jusqu'à, par exemple, 18, 19, 20 ans, qui tentent de se qualifier tout seuls. Donc, en ayant des bonnes infrastructures, c'est là qu'on va pouvoir passer le prochain cap, je pense, pour que nos joueurs québécois commencent à se qualifier dans les grosses équipes, dans les grosses ligues américaines. Parce que pour l'instant, les tournois, beaucoup aux États-Unis, beaucoup d'argent... ou en Europe ou en Asie. Peut-être un jour au Québec.
C'est le dernier des tabous, l'argent. Combien peut faire un bon joueur québécois en une année, là?
Oh mon Dieu, le joueur québécois en une année, ça va dépendre en fait du jeu.
Je te demande une
aussi,
moyenne. Est-ce qu'on est de l'ordre du 300 000 $ ou plus du 40 000?
Non, on est plus. Je pense par exemple aux joueurs qui se qualifient à League of Legends par certains aspects, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais les joueurs habituellement vont gagner 50, 60 000 $ par année, plus tous les bénéfices, les assurances et tout ça. Donc, c'est quand même pas un salaire négligeable, considérant que le salaire moyen est beaucoup en dessous de ça.
Oui, absolument, absolument. C'est extrêmement intéressant, c'est fascinant. C'est un phénomène qu'on ne peut pas ignorer. Dans les prochains instants, sur le coup de 9 heures, on va parler à Paul Sands aussi de Montréal eSports, eSports Montréal. On va lui parler de toutes sortes d'aspects, leur mission, quel support ils apportent aux jeunes et peut-être moins jeunes qui ont un talent dans les tournois de jeux vidéo, de sport électronique. Je veux vraiment que vous participiez à cette conversation-là, à cette émission spéciale de Bonsoir les sportifs sur le e-sports. Vous pouvez nous joindre via le 514-790-9850 ou encore le 1-866-790-9850. Et si vous utilisez les médias sociaux, eh bien, accompagnez donc vos questions du mot-clic dièse BLS pour Bonsoir les sportifs. Et là, signe que les temps changent et que des gens d'une autre génération nous écoutent. J'ai un ami qui me dit, il n'y a rien de mieux qu'un vintage classique entre Ryu et Ken. Alors, ceux qui sont amateurs de Street Fighter savent exactement de quoi on parle, mais on joue encore à Street Fighter en tournoi de jeux vidéo. Hein? Street Fighter 4, Street Fighter 5, j'ai vu ça. Là.
Oui, vraiment, c'est des jeux qui sont vraiment des pionniers dans le monde du sport électronique. On a Street Fighter, on a Super Smash. Ces jeux-là ne s'en vont pas nulle part.
Ah ouais, bon ben parfait. On continue la conversation sur les tournois de jeux vidéo. Merci beaucoup d'être à l'écoute de Bonsoir les sportifs. On file ensemble dans cette émission spéciale eSports jusqu'à minuit.